Est-ce que l'enregistre, c'est bon, ça enregistre? Eh bien, on va commencer. Alors, j'ai intitulé cette étude. Ça marche, ça, en général. Jackie? Non, je rigole. Ah, oui. Alors, on va commencer cette étude que j'ai intitulée « De la Torah aux prophètes en route vers la Pentecôte ». On a vécu Pâques, la fête de Pessah, et dans les calendriers chrétiens et juifs, il y a 49 jours qui séparent Pâques du don de l'Esprit ou du don de la Torah. Et je trouve que c'est intéressant de réfléchir ensemble à cette période qui sépare la délivrance d'Égypte ou la mort de Jésus avec le don de l'Esprit ou le don des Écritures. Et vous allez voir que le rapport entre la loi et la Pentecôte est absolument merveilleux. Et une des questions qu'on va se poser cet après-midi, c'est le rapport de nous en tant que chrétiens à la loi de Dieu. Parce qu'on peut souvent entendre qu'on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et quel est notre regard aujourd'hui sur la loi? Est-ce qu'elle a été abolie ou pas? Qu'est-ce qu'on en fait dans notre vie de tous les jours? Parce que souvent, ça peut coincer, on mettrait la loi en opposition avec l'idée de grâce. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on va regarder ensemble cet après-midi. Et tout simplement, si vous voulez, l'idée, c'est de se dire, on vient de passer Pâques, on va vers la Pentecôte, et qu'on puisse méditer sur ce temps du calendrier biblique. Voilà, méditer sur ça, parce que ça a énormément de sens. Alors, la loi, qu'est-ce que c'est? La loi la plus connue, on va dire, ce qu'on connaît le plus de la loi, ce serait les 10 commandements, ou les 10 paroles, littéralement. Ce serait le plus répandu, hein. Je ne sais pas si vous seriez capable de les citer, ces 10 paroles, ces 10 commandements. Si je vous demandais comme ça, à froid, tu ne tueras point, tu ne convoiteras point. Ouais, j'entends sans entendre, mais vous... Voilà. Pas d'autre Dieu devant ma face, ouais. Amen. Ouais. Répète, c'était bien ce que tu as dit. Donc voilà, on va dire c'est ce qu'on connaît le plus et c'est ce qu'on retrouve là. Mais est-ce que vous savez combien il y a de commandements dans la Bible? Ah. 613. Bonne réponse, tu as une bonne note. 613, exactement. Et on va parler de cette partie de la Bible qui s'appelle la Torah, qui regroupe ces 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir toute la Bible pour voir l'implication entre Pessah et Shavuot, entre Pâques et la Pentecôte. Alors, cet ensemble de livres, généralement, on l'appelle la Torah. Et en français, on traduit ça en généralement par la loi. On dit que c'est la loi, la Torah. Et ce qui me pose problème avec cette traduction, c'est que la Torah ne se résume pas à la loi, si vous voulez. Il y a la loi de Dieu qui est donnée, mais il y a d'autres choses. Alors pourquoi je dis ça? Parce que souvent, quand on parle de loi, il y a un aspect négatif. Quand on parle de loi, on se dit que c'est des interdits, c'est là pour nous embêter, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est restrictif, l'homme est appelé à être libre, et donc la loi, il y a vraiment cet aspect qui n'est pas très attirant pour les gens. Pourtant, est-ce qu'on peut avancer sans loi? Est-ce qu'on peut avancer dans la vie chrétienne sans avoir des principes? Voilà, ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Une fois, il y avait un étudiant en théologie à Aix qui a dit « Ah, mais maintenant on est sous la grâce, il n'y a plus la loi, la lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Et le prof avait répondu, peut-on connaître l'esprit sans la lettre? Peut-on connaître Dieu sans sa parole? Donc ça fait partie des questions qui se posent. Et je vais citer Charles Péguy qui disait, l'ordre et l'ordre seul fait la liberté, le désordre fait la servitude. Et c'est vrai qu'on est dans une société depuis les années 70 qui veut enlever certains principes judéo-chrétiens au prétexte de la liberté. Et certains philosophes ont dit « Attention, là on va vers la servitude ». Ça peut paraître paradoxal, mais ça fait partie d'une compréhension de la loi. Depuis mai 68, ni Dieu ni maître, la libertarisation, la libéralisation des choses. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais, mais ça veut dire que si on dit qu'il n'y a ni Dieu ni maître, est-ce qu'on peut avancer paisiblement? Ou est-ce que c'est comme ça qu'on est censé avancer? Est-ce qu'on est plus libre ou est-ce qu'on est plus esclave? Et un verset que je voulais citer, pour commencer, c'est Jésus qui en parle. Il dit ceci: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui les enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Voilà ce que dit Jésus dans son ministère. Il dit, tant qu'il y a le ciel et tant qu'il y a la terre, la loi de Dieu est là. Elle est là. Pourtant, aujourd'hui, certains disent que la loi n'a plus de sens et qu'elle n'est plus là. Jésus dit, elle est là, elle restera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors, on va parcourir la Bible ensemble et ensuite, je vous laisserai intervenir sur cette présentation-là de ce que dit Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, la loi de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie chrétienne? Est-ce qu'on en a une ou pas? Et surtout, quel rapport avec la Pentecôte? Alors, comme je l'ai dit, la Torah, c'est les cinq premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, Lévitique, c'est les cinq premiers livres qui racontent l'histoire biblique. Et souvent, on traduit ça par l'idée de la loi. Mais ce qui est intéressant dans l'idée de la Torah, c'est que la Torah, c'est avant tout une histoire. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais rappeler. Souvent, on dit la Torah, c'est la loi, c'est le don de la loi de Dieu. Oui et non, c'est aussi une histoire qui est racontée. Et dans cette histoire, il va y avoir des choses qui vont être données. Donc ça me semblait important de le rappeler. C'est pour ça que quand on dit que c'est les livres de la loi, c'est un peu réducteur de dire ça. Pourquoi? Parce que dans la Torah, on a l'idée de la création. Dieu crée Adam et Ève. Ils chutent, il y a le péché. Et puis il y a l'idée de rédemption. Dieu se choisit un peuple, Israël, une terre, et puis il va faire alliance avec lui. Voilà ce qu'on trouve dans la Torah. Donc dire c'est juste la loi, c'est un peu brut. Il y a une histoire qui est racontée. Et dans cette histoire va être intégrée une loi. Mais ce n'est pas l'inverse. Alors juste pour retracer ça, quand on relit Genèse, on a la création, Dieu crée Adam et Ève, ils chutent, ils se rebellent contre Dieu et le péché rentre dans l'humanité. Vous voyez, je vais un court survol pour ensuite, vous allez voir où je vais en venir. Et puis Dieu choisit Abraham, il va bénir une famille et il va en faire un peuple pour bénir les nations. Donc ce n'est pas une histoire très compliquée. Dieu choisit Abraham, il choisit un peuple, une terre, il fait une alliance. Et puis, on retrouve cette famille plus tard en Égypte, et ils sont captifs en Égypte. Alors Dieu va les sortir de là par la Pâque. C'est-à-dire qu'il va prendre tous les premiers les 10 plaies en Égypte, et il va prendre tous les premiers-nés, sauf les premiers-nés des familles juives qui auront sacrifié un agneau, ils auront mis le sang sur le linteau des portes. Vraiment, je survole, juste pour expliquer cette histoire-là et pour rappeler que la Torah, c'est avant tout une histoire et que dans cette histoire, on va intégrer notre sujet. Donc voilà, Abraham a une famille, cette famille est bénie, cette famille grandit, cette famille, on la retrouve en Égypte et ils sont captifs et Dieu vient les délivrer. C'est pas compliqué comme histoire. C'est pas compliqué. C'est pour ça que souvent on dit la Torah, il y a plein de trucs et tout. L'histoire reste simple finalement. Une famille est bénie, elle grandit, elle est captive en Égypte et Dieu vient la délivrer. Et puis, quand on regarde un peu plus loin, Dieu sort son peuple d'Égypte, il ouvre la mer en deux, le peuple sort, et puis il va révéler qui il est au mont Sinaï dans le désert. Et là, il va donner ce qu'on appelle les tables de la loi. C'est comme une constitution théocratique, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui va vivre avec Dieu, Dieu est le roi de ce peuple, et il va donner une loi, Et nous, on la connaît, la forme qu'on connaît le mieux, c'est les 10 commandements. Donc, il se révèle et il donne cette, ce qu'on pourrait appeler la constitution. Une constitution du peuple. Sauf que ce n'est pas par le peuple, mais c'est par Dieu. Et on trouve globalement deux types de textes dans la loi que Dieu donne. Il y a ce qui est religieux, ce qui sépare fondamentalement Israël des autres peuples. Il y a un Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu, tu m'adores que moi. Et puis il y a aussi toute une notion de justice sociale, l'éthique, la morale, la vie en communauté. Voilà, tu ne vas pas exploiter les autres, tu vas les aimer. Voilà, tu ne vas pas faire d'adultère, tu ne vas pas voler. Donc il y a vraiment tous ces aspects cultuels, comment on s'approche de Dieu et comment on vit en communauté avec cette conscience de Dieu parmi le peuple. Et puis on se dirait, une fois qu'on a posé ça, le reste des livres, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ce sont les trois livres qui suivent après, on se dit qu'est-ce que c'est ? Moi j'ai lu des commentaires qui disent finalement le reste c'est une liste de lois. Il y a beaucoup qui disent ça, j'étais assez étonné parce que quand on relit ces textes, on dit qu'il y a toujours une histoire en fait qui continue. C'est une histoire qui est racontée. Et on sait qu'on préfère largement raconter une histoire que lire des choses qui ne sont pas intéressantes. Donc on a Dieu qui donne des lois, une constitution du peuple d'Israël. Et puis ensuite, dans les autres livres, on a 613, ça fera en tout 613 autres lois révélées autrement. Et si vous voulez, un des points de mon texte cet après-midi, c'est de dire que le comment ça a été révélé explique la révélation elle-même. Comment Dieu donne la loi dans la Torah va expliquer ce qu'est réellement la Torah. Voilà. Si on dit juste, boum, il a donné 613 lois, on ne peut pas comprendre la loi elle-même. Si on comprend dans quel état d'esprit et comment il la donne, on peut comprendre le fondement même de cette loi. Parce que pour le peuple a vécu un récit, une histoire, et c'est comme ça qu'il a reçu. Mais nous, on n'a pas vécu cette histoire, on regarde ça, brut de pomme, on se dit, boum, il y a 613 commandements qui leur tombent dessus, et donc ce n'est pas une histoire intéressante. Mais il y a une histoire qui se développe dans la Torah, et c'est ça qu'on va voir. Et je vais vous donner juste une vision d'ensemble de comment la loi est donnée. Alors, on a 613 lois. On va prendre un exemple. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. D'accord ? Simplement. Qu'est-ce que fait le peuple après ? Il va se constituer un veau en or et il va l'adorer. C'est très caricatural, hein ? Il va adorer. Qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir plus de lois qui vont être données. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il n'y a pas 613 commandements. Vous êtes d'accord ? Il y a la constitution d'Israël, il y a le veau d'or. Qu'est-ce que fait Moïse ? Il rajoute de la loi. Il y a une révolte contre les leaders. Une révolte. Il y a eu plein de révoltes, j'en prends une au hasard à la limite, on s'en fiche de savoir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui se passe ? Encore plus de lois qui est donnée. Et puis il y a encore des problèmes, les murmures du peuple, les révoltes, l'incrédulité, et encore une partie de loi qui est donnée. Et ce que je veux dire par là, c'est que la loi est révélée au travers de récits, et la Torah est avant tout une histoire qui révèle la loi par rapport à ce qui s'est passé dans le peuple. Dieu n'a pas dit, boum, tu auras 613 commandements, mais c'est en fonction des événements qu'il a rajouté des lois en fonction de ce qui se passait. Et ce qui est très paradoxal dans cette histoire, c'est que, en fait, à chaque fois que le peuple se rebellait, Dieu rajoutait de la loi, mais le peuple répondait par la rébellion, systématiquement. Alors c'est une histoire, c'est un amour passionnel, c'est une histoire un peu compliquée à comprendre. Comment Dieu peut à la fois voir que son peuple est incapable de suivre les lois qui leur sont données au début et rajouter, jusqu'à arriver à 613 commandements pour le culte et pour la vie en communauté. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la Torah, c'est pas boum, 613 lois qui tombent, c'est une histoire qui est racontée, une histoire d'un Dieu fidèle, d'un peuple qui des fois va être fidèle, des fois ne va pas l'être, qui va avoir tendance à se révolter notamment dans ce désert, et Dieu qui va de manière cyclique rajouter à chaque fois un peu plus de lois qui seront données. Et c'est important d'avoir, quand on lit la Torah, cette vision des choses. Parce que Dieu, il ne va pas dire, je te donne une liste de lois, et on y va, quoi. Il dit, on va vivre ensemble une histoire, et en fonction de cette histoire, je vais vous révéler des choses par rapport à moi. Et plus le peuple était rebelle, plus Dieu montrer sa fidélité et son amour pour lui. Alors on peut se dire, ah oui, mais le peuple, qu'est-ce qu'il est rebelle, il n'a pas compris, il s'est endurci devant Dieu. Mais on va comprendre ce qui ressort de tout ça. Parce que nous, il ne nous appartient surtout pas de juger cette histoire-là, on n'y était pas. Mais d'essayer de comprendre ce que Dieu voulait faire avec un peuple, et surtout la façon dont il a révélé la loi de façon cyclique comme ça. À chaque fois, le peuple se rebellait et Dieu donnait un peu plus de loi. Si vous voulez, c'est un peu plus humain. Parce que cette loi était censée aider le peuple. Tu fais le veau d'or ? Ok, je vais t'en rajouter. Pour que tu comprennes. Ah oui, mais tu te révoltes encore contre mes leaders, contre ce que je vais mettre en place ? Oh, je t'en rajoute encore. Ah oui, tu murmures, tu es incrédule ? Je t'en rajoute encore. Mais c'était une main tendue à chaque fois et le peuple n'arrivait pas à attraper cette main. Je dis bien, il n'arrivait pas. C'était comme si c'était trop loin, c'était trop dur. Le problème, ce n'était pas la loi. Le problème, c'est qu'on n'arrivait pas à l'attraper. On n'arrivait pas à attraper Dieu comme ça. Et donc, cette loi était donnée de cette façon. Et ce qui est central dans cette histoire, c'est ça qui est important, ce qui est central dans cette histoire, c'est qu'on a ce cycle-là qui est donné. La loi est donnée par cycle, en fonction de récits qui se sont passés. Et puis à la fin de la Torah, dans le livre du Deutéronome, Moïse il va cogiter sur toute cette histoire. Il dit, voilà tout ce qui s'est passé. Voilà toute l'histoire. Il y a un Dieu fidèle, il y a un peuple qui n'arrive pas à suivre, mais Dieu continue à lui parler, à lui révéler des choses. Il l'a choisi, il le conduira là où il veut. Et le peuple, tant bien que mal, va essayer de suivre, des fois avec succès et des fois non. Et ce qui est intéressant, c'est que le constat de Moïse, c'est de dire que déjà, le peuple est incompétent. Il n'arrive pas à être fidèle à Dieu. Ça, c'est un premier constat qu'on trouve dans le Deutéronome. Le constat de Moïse, c'est on a un Dieu fidèle, on a un peuple qui n'arrive pas. Il n'arrive pas. Il y a une incapacité qui se développe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, il va révéler que le cœur du problème, c'est un problème de cœur. Il y a cette thématique, ah, ils ont un peu le cœur dur. Moïse ramène ça un petit peu à cette idée de cœur qu'on retrouve, et là je vais citer le Nouveau Testament qui en parle justement de ces passages-là, pour mettre en lien, pour ne pas les séparer. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Vous voyez, Dieu dit il y a le mariage, ah vous êtes dur, bon, il va vous rajouter un peu plus de loi qui va s'adapter à vous. Mais c'est parce que votre cœur est dur. Vous voyez l'idée ? La loi a été révélée en fonction de contexte et de compréhension de ce que le peuple pouvait ou ne pouvait pas faire. Donc c'était certainement pas pour le restreindre, c'était pour dire, il y a quelque chose, mais bon, là, dans ce cas-là, Jésus dit, bon, ils avaient le cœur dur, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Mais à la base, c'était pas dans la loi, ça. Ça a été révélé plus tard. Acte 7, 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous opposez toujours au Saint-Esprit ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Voilà ce que dit l'apôtre en faisant le lien entre justement la communauté chrétienne et la communauté d'Israël, de dire oui, des fois on a le cou raide, on a du mal à se laisser guider par Dieu, à avancer dans ce qu'il veut. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est clairement dit dans Actes, c'est pas parce que vous êtes chrétien que vous êtes meilleur qu'eux, parce que finalement on voit aussi que vous, le cou, il est raide aussi, quoi. Mais ce qui est intéressant dans ces passages, c'est de dire qu'il y a un problème de dureté de cœur. C'est ça qui ressort de la Torah et c'est ça qui ressort dans les actes, c'est-à-dire Jésus bâtit son église et puis les actes, c'est toute cette histoire qui raconte l'histoire de l'église. Et dans cette histoire de l'église, l'apôtre dit « Vous aussi, comme vos pères ont été durs, vous aussi vous êtes durs finalement. Vous vous opposez à l'esprit de Dieu. » Alors ça, c'est le discours final de Moïse. Et ensuite, on continue dans la progression de l'histoire, c'est la Torah, hein, les 5 premiers livres de la Bible. On va continuer dans cette histoire, parce qu'ensuite, le peuple s'installe en Israël. La famille d'Abraham a grandi, elle était en Égypte, ils ont été sauvés, ils s'installent en Israël. Et il y a une période, avec les livres de Josué, des juges, des rois, des chroniques, c'est toute cette période où le peuple va vivre en Israël. Et on part du constat de Moïse, qu'on gardera toujours à l'esprit dans cette étude. Le peuple, il n'arrive pas à suivre la loi de Dieu. Et tous les livres qui vont suivre sur la terre d'Israël vont confirmer ce constat. ils vont confirmer qu'ils ne vont pas y arriver. Donc dans le livre de Josué, le peuple ne prend pas sa part, il laisse, Dieu lui dit « prends toute la terre », le peuple il dit « non, je ne vais pas prendre toute la terre », donc il laisse des ennemis dehors et dedans, et donc il va laisser des idoles rentrer. Dans le livre des juges, c'est-à-dire quand il y aura ces chefs qui vont continuer à régner sur Israël, il y aura des divisions, des guerres tribales, de l'idolâtrie. On va continuer à laisser le péché se répandre parce qu'on ne respecte pas tout simplement la constitution de cette théocratie d'Israël. Il y a d'autres dieux devant ma face, apparemment. Devant ta face, il y a d'autres dieux, ben ça ne va pas. Et donc, il y a tout ça qui se passe. Et même plus tard, quand le royaume sera divisé en deux, on va continuer d'être dans cette division, dans cette désobéissance. Le peuple, ses écrits montrent que le constat de Moïse, du Deutéronome, continue d'être vrai. Le peuple n'arrive pas. Il n'arrive pas à saisir ce que Dieu lui donne. Et la question qui se pose, c'est comment on va régler le problème ? Comment on règle le problème ? Le peuple, il est dans le désert. Dieu a beau lui rajouter des lois, il n'arrive pas à obéir. Dieu lui donne une terre, ils sont en Israël, il y a la même loi qui est donnée, ils n'arrivent pas à suivre. La question c'est comment on règle le problème. Et là on arrive dans une suite de livres dans la Bible, ce sont les prophètes, le temps des prophètes, qui vont se mettre à écrire et qui vont commencer à rédiger des choses sur comment ça va se régler cette histoire. C'est pour ça qu'ils vont commencer à voir des choses un peu plus loin. Ils vont commencer à apercevoir des promesses. C'est pour ça que l'histoire, elle est logique. Et cette histoire, elle va être fondée. Tous les prophètes vont parler à partir de cette histoire de la loi de Dieu et du peuple qui essaie d'obéir mais qui n'y arrive pas. Je ne sais pas si c'est clair pour l'instant tout ce que je raconte, mais je pose dans la chronologie si vous voulez. C'est comme ça que je veux montrer les choses. Donc on a le constat de Moïse. La Torah montre l'incompétence et l'infidélité du peuple. Elle montre aussi la fidélité de Dieu. Les livres des rois vont confirmer ça. Quand ils vont vivre sur leur terre, ça ne marchera pas. Et l'apport des prophètes va se baser sur l'incapacité à suivre la loi de Dieu. Parce qu'eux aussi, ils ont lu l'histoire et se sont dit, bon, on a un peuple qui a du mal à obéir. Des fois, il y arrive, des fois, il n'y arrive pas. Comment on va faire ? Eh bien, la liste des prophètes qui va suivre va parler sur cette situation-là. Mais elle va apporter quelque chose de nouveau. Elle va dépasser le constat que Moïse a fait pour apporter un début de solution. Et là, je vais prendre, par exemple, il y a Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, et puis d'autres prophètes qui ont moins écrit, mais qui sont tout aussi importants. Et on va voir les éléments de solution qui vont être donnés par rapport à l'incapacité à suivre la loi de Dieu. Et vous allez voir ensuite, on va arriver doucement vers la Pentecôte. En Ézéchiel 11, il est écrit ceci. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront, et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Donc, on part du constat que le peuple n'est pas dans la loi de Dieu. Et au verset 19, on a un premier élément de réponse qui est intéressant. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, on voit le but, hein, et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Donc Ézéchiel se dit, ok, le peuple, il n'arrive pas à s'en sortir, un jour Dieu donnera un cœur nouveau. Donc le problème, c'est bien une histoire de cœur. Un jour, il faudra que le peuple ait un cœur nouveau. Ézéchiel 36, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je donnerai un cœur de chair. » Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Vous voyez, il répète ça. Donc Ézéchiel, il a le même constat que Moïse. Le peuple a du mal à suivre. Premier élément de réponse, puisque c'est le cœur le problème, il faudrait avoir un autre cœur. C'est très simple. Hein. L'histoire biblique, elle est simple. Puisque le problème de la désobéissance est un problème de dureté de cœur, ben changeons de cœur. Ah, Dieu fait simple. Hein. C'est un mécano, il y a un problème et on change la pièce. Pas s'embêter la vie, quoi, si c'est ça le problème. Pourtant, il a fallu des siècles pour révéler ça. Alors, vous pouvez intégrer cette première information. Il faut changer de cœur. Et puis, Jérémie va apporter un autre élément de réponse qui va compléter la solution. Jérémie va dire, mais l'obéissance, ça ne devrait pas être une charge, mais une histoire. Il faut avoir envie de le faire. Donc, est-ce que changer de cœur, ça suffit? Non, ça ne suffira pas. Et c'est ça qui est intéressant. Jérémie dit, il faut intégrer autre chose. Dans ses prophéties, il va révéler un autre élément. Il va dire, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ça, c'est le deuxième élément qui est donné. Je leur change leur cœur, et dans ce cœur, je vais écrire ma loi. Alors, il a pas dit, on arrête la loi, ça ne marche pas. Il a dit, dans ce cœur nouveau, je vais inscrire ma loi. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Voici ce que dit Paul à l'église de Corinthe. En fait, ce que les prophètes ont vu, c'est-à-dire qu'il faut changer de cœur et il faut qu'il y ait la loi dedans, les apôtres ont dit, en fait, c'est ça la solution. N'obéissez pas juste par devoir, mais il faut que ça vienne dans votre cœur, il faut que Dieu l'inscrive dans votre cœur. La solution des prophètes, d'Ézéchiel, de Jérémie à l'époque, les apôtres vont dire, mais c'est ça en fait qu'on est en train de vivre. La loi d'Israël, certains diraient, on l'évacue. Les apôtres disent non, on l'intègre. Vous voyez la différence? On l'intègre, il faut qu'elle rentre en nous. C'est pour ça que quand on dit oui, mais on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Oui, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? Les apôtres ont dit, ce que les prophètes ont dit, on aura un cœur nouveau et il inscrira sa loi dans ses cœurs, ben maintenant, c'est nous, nous y sommes. Sauf qu'ils se rendent compte que ce n'est pas si évident que ça. Donc je pense qu'ils devaient être humbles aussi. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, il n'y avait pas un cœur nouveau avec la loi intégrée. Eux, ils l'avaient et ils se rendent compte que ce n'est pas si évident que ça. Et je pense qu'ils ont dû être, ils ont dû relire la Torah avec humilité. En se disant, on les a beaucoup jugés. Puis finalement... C'est pas si évident que ça. Hébreux 8, verset 8. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Voilà ce que les apôtres, ceux qui ont construit l'Église, ont dit ça. Ils n'ont pas dit maintenant la loi, on la jette à la poubelle. Ils ont dit, si vous avez reçu l'esprit, elle est dans votre cœur. C'est différent que de dire que la loi, maintenant, elle n'a plus d'importance. C'est tout l'inverse, c'est que dire maintenant, elle est dans les cœurs. La loi est dans les cœurs. Et donc, là, on intègre deux éléments. J'en intégrerai un troisième dans la réflexion. Ézéchiel dit, il faut un cœur nouveau. Jérémie dit, dans ce cœur nouveau, il faut inscrire la loi de Dieu. Dieu le fait lui-même, d'ailleurs. C'est lui qui écrit dedans, directement. Il manque un troisième élément à tout ça. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui va l'intégrer dans notre réflexion, dans le parcours qu'on fait cet après-midi. Ézéchiel dit un cœur nouveau. Jérémie dit sur ce cœur, on va mettre la loi de Dieu. Qu'est-ce qu'Ésaïe va apporter à cette réflexion? Ésaïe souscrit à ce que disent ses collègues. Un cœur nouveau, la loi de Dieu, il manque quelque chose. Il manque un guide, il manque le Messie. Il faut que quelqu'un nous guide dans ça, parce que ça, cette histoire-là, on ne peut pas le faire seul. Un cœur nouveau, dans ce cœur, on va intégrer la loi, mais il nous faut un guide. Et il va parler du serviteur souffrant, du Messie d'Israël. Et ça, c'est fondamental dans la foi chrétienne. Il nous faut un leader qui nous conduise dans ces voies-là. C'est vraiment ces trois points que j'aimerais vous... livré cet après-midi. Un cœur nouveau, dans ce cœur, la loi de Dieu, mais pour y parvenir, un guide, le Messie d'Israël. C'est là où il prend son rôle, Le Messie d'Israël vient parce qu'il faut que cette loi soit intégrée dans les cœurs. Et donc vous voyez que toute l'intrigue biblique est liée à qu'est-ce qu'on fait de la loi. Toute l'intrigue biblique vient à partir où, du moment où la loi de Dieu est donnée pour conduire un peuple, comment on fait pour l'intégrer ? Un cœur nouveau, on l'inscrit dans les cœurs, et il y a un Messie qui viendra nous conduire dans cette voie. Et donc Ésaïe écrira sur ce Messie, « Un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, un rejeton naîtra de ses racines, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Il respirera la crainte de l'Éternel parce que cet homme-là va nous conduire à souscrire et à intégrer la loi de Dieu. La crainte de l'Éternel est liée à la loi de Dieu. C'est pour ça que Ésaïe va répéter cette histoire-là. Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie, comme il y en a eu pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Il y a une route qui est tracée, mais cet homme-là qui va venir, lui, il va obéir parfaitement à la loi de Dieu. Lui, il craint l'Éternel 100%, 200%. Aucun problème, il ne sortira pas de ça. Il nous faut quelqu'un comme ça pour nous guider vers ce chemin. C'est pour ça que, quand on résume un petit peu tous ces éléments, on voit la conclusion de Moïse dans la fin de la Torah. Le peuple est incapable de souscrire à la loi de Dieu dans le sens où il n'arrive pas à y obéir. La preuve par l'exemple, c'est toute l'histoire des rois sur les terres d'Israël. Et puis on a la solution des prophètes. Il faut un cœur nouveau, un cœur équipé pour remplir, pour accomplir la loi de Dieu. Mais il nous faut un guide, le Messie d'Israël. C'est comme ça que j'ai envie de présenter Jésus cet après-midi. C'est pour ça qu'il faut le Messie. C'est pour ça que je recite ce passage. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Vous comprenez pourquoi il dit ça maintenant ? C'est parce qu'il est en train de dire, moi je ne suis pas venu pour abolir la loi. Toute l'intrigue biblique, c'est de dire comment la loi va être intégrée. Ben, les prophètes l'ont dit. Un cœur nouveau, un cœur où la loi est inscrite, et un guide qui nous mène vers ça. Donc ça n'a aucun sens s'il dit j'abolis ça, puisqu'il vient l'accomplir. Pour lui, en lui, mais en nous aussi. Et c'est pour ça qu'il y a ces versets que je ne vais pas reciter qui parlent de la dureté du cœur et du cou raide. Il dit, c'est ça le problème, il y a un problème de cœur. C'est pour ça que je l'ai dit. Est-ce qu'il vient pour abolir ou pour accomplir? Ça, c'est toute la question qu'on se pose. Mais l'intrigue de la Torah, des rois et des prophètes, révèle que la loi n'a pas vocation à disparaître, mais à être inscrite dans les cœurs. C'est toute l'intrigue biblique, là. C'est toute l'histoire de la Bible. C'est toute la Torah, c'est tous les prophètes. La loi inscrite dans les cœurs. Pourquoi ? Parce que la loi, elle révèle qui est Dieu. Et que comme nous devons témoigner de Dieu autour de nous, eh bien, il faut intégrer cette loi pour intégrer Dieu lui-même et le connaître. C'est ça l'enjeu de la loi, c'est connaître Dieu. Eh bien, cet enjeu de connaître Dieu qu'on trouve dans la loi, eh bien, c'est toute l'intrigue de la Torah, des rois et des prophètes. Tout tourne autour de ça. Et c'est pour ça qu'Ésaïe dit, il y a un homme qui viendra, il respirera la crainte de l'Éternel. Ce sera en lui. Et il va nous guider vers ça. Il va nous donner un nouveau cœur. Il va nous amener là. C'est pour ça qu'on a le résumé constitutif de la loi, les 10 commandements, qui reste en ce sens la base de la réflexion de la théocratie d'Israël, aimer Dieu et aimer son prochain. Et c'est pour ça que les apôtres diront, toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez ? Donc il n'est pas en train de dire, maintenant on n'est plus dans la loi, on est dans la grâce. Il dit, cette grâce s'exprime dans la loi que nous avons désormais intégré. Et Jésus, dans son ministère, va revenir au cœur du problème qui est l'intention profonde du peuple. Jésus revient à l'idée de cœur. Quand il est face à des juifs endurcis, il va dire, il y a un problème de cœur. Vous avez appris qu'il a été dit, c'est Jésus qui parle, tu ne commettras point d'adultère, la loi qui a été révélée. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ben oui, parce que ça, on le sait maintenant, les prophètes nous l'ont dit. Même Moïse l'avait vu. C'est un problème de cœur, cette histoire. Le cœur est dur. Donc vous, vous interprétez la loi en disant, je ne la convoite pas, dire physiquement, je ne vais pas aller la voir, mais déjà dans ton cœur, c'est déjà un problème. Parce que là est la loi. C'est pour ça qu'il va reprendre ça, pas pour en faire quelque chose de plus dur. Il révèle en fait ce qu'est la loi. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Comprenez, c'est... À la limite que tu te mettes en colère, mais le problème, c'est qu'à la base, dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça qu'on a ces versets. Et alors, évidemment, dans tout ça, Jésus qui va traiter le fond du problème, qu'est-ce qu'il fait ? Comment Dieu va inscrire la loi chez nous ? Dans l'histoire biblique, à quel moment finalement il va inscrire cette loi dans le peuple ? On a vu dans l'histoire biblique d'Israël, il y a Pessah, il y a la Pâque, la délivrance d'Égypte, et puis il y a le don de la loi, Shavuot. Dans notre calendrier chrétien, il y a Pâques, la mort du Christ, il nous donne la vie éternelle. Et à quel moment Dieu va donner sa loi, va nous donner sa loi ? Et comment il va le faire ? Eh bien, c'est le thème de la Pentecôte. La Pentecôte consiste à intégrer la loi dans les cœurs par le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas de l'évacuer, c'est de l'intégrer. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est dans cette puissance du Saint-Esprit qui est donnée que la loi est intégrée dans les cœurs. Vous voyez ce parallèle dans l'histoire biblique ? À Pessah, Israël sort d'Égypte, il est délivré, et à Shavuot, il reçoit la loi de Dieu. À Pâques, Christ meurt et ressuscite pour donner la vie éternelle. 49 jours après, dans le même calendrier, à Pentecôte, il inscrit sa loi dans les cœurs. L'histoire est reprise, elle n'est pas abolie, elle est menée à un accomplissement. C'est pour ça que l'enjeu de la Pentecôte, c'est l'enjeu des prophètes, c'est l'enjeu de la Torah, c'est de dire la loi de Dieu va être intégrée dans les cœurs. Un cœur nouveau, un cœur où il y a la loi de Dieu et un Messie qui nous y amène. C'est pour ça que Jésus dit « Je remonte et maintenant vous allez recevoir mon esprit qui va inscrire dans vos cœurs ma loi. » Je fais juste une petite pause ici. Est-ce que vous aviez déjà vu ces aspects-là dans l'histoire biblique ? Est-ce que vous aviez déjà approché la Pentecôte du point de vue du don de la loi dans les cœurs ? Je ne sais pas où est le micro. Est-ce que vous avez là jusque-là des commentaires ou des choses à dire ? J'avais laissé le micro à Farid, mais je ne sais pas où il est. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des commentaires, des remarques par rapport à tout ça ?
Dans ce que tu as dit, qu'à chaque fois qu'il y a une désobéissance, il y a augmentation de la loi de Dieu. On le voit aussi dans la Genèse, au démarrage. Quoi.
Oui.
Adam et Ève, ils fautent. Dieu établit des lois.
Oui.
Donc c'est vrai que c'est un principe qui est...
Oui, ça montre que la loi est révélée en fonction d'une histoire. C'est pour ça que je dis que traduire le mot Torah par loi, je trouve que ça ne rend pas justice au texte. Non, la Torah, c'est une histoire dans laquelle est intégrée la loi pour le bien d'un peuple.
Une histoire dans laquelle Dieu s'implique aussi.
Oui, tout à fait.
Il s'intègre dans cette histoire.
Oui.
Parce qu'il veut nous sortir de la désobéissance.
Oui, c'est ça. Oui, c'est que la loi...
Il n'est pas ignorant, quoi. Il est vraiment avec nous. Quoi,
c'est que la loi n'est pas donnée en guise de sanction, mais de main tendue.
Voilà.
C'est ça qui
chemine avec nous. Quoi.
Et, ouais, et elle est donnée progressivement par rapport aux rébellions qui sont faites. Pour aider et pas pour contraindre.
C'est important, ça.
Moi, ce que je voulais partager cet après-midi, c'était juste reprendre cette histoire-là. Il y a Pâques, il y a la Pentecôte. Qu'est-ce qu'on est en train de jouer là ? Ce qui se joue, c'est toute l'intrigue de la Torah et des prophètes, c'est de dire qu'il y a une loi qui a été donnée à Israël, qui devait être intégrée dans les cœurs par une puissance. Et bien, à la Pentecôte, l'Esprit est donné et la loi est inscrite dans les cœurs. Il y a différentes perspectives pour parler de la Pentecôte et du don de la loi. Mais je voulais prendre ça pour dire que c'est l'intrigue. Et que quand... Et je dis ça surtout parce que dans certains milieux évangéliques, on dit, bon, ben, c'est la grâce, la loi évacuée, elle n'a plus d'importance. Alors que la prophétie qui parle de la Pentecôte dans l'Ancien Testament parle précisément du fait que c'est le jour où la loi sera intégrée dans les cœurs. Alors qu'aujourd'hui, on dirait, ah ben non, en fait, elle n'y est plus. En fait, c'est vraiment l'inverse qui est dit par les prophètes et qui est réalisé à la Pentecôte et que les apôtres de l'Église diront plus tard, ben oui, effectivement, on en est témoin. On l'a vu, ça s'est accompli, la loi est maintenant dans nos cœurs. Avec toute la perspective aussi des apôtres de dire, ben, le temple, il est en vous, l'esprit est en vous, la loi est en vous. Vous pouvez maintenant l'accomplir par l'amour, par la puissance de Dieu. Il n'y a que Dieu en vous qui peut accomplir la loi avec vous.
Moi, je trouve que c'est vraiment important ce que tu as dit parce qu'on réalise qu'on ne peut pas faire l'économie de ne pas être continuellement rempli de l'esprit. Parce que sinon, on se bute à ce problème de l'origine. Notre cœur de lui-même, avec tous les efforts du monde, même avec l'aide de Dieu, avec les commandements, on n'y arrive pas. Et se rappeler à chaque Pentecôte, à chaque Shavuot, que ben, on doit être veillant parce que c'est l'esprit qui donne vie à ses commandements dans le cœur nouveau. Mais si on ne maintient pas cette vie, ça reste très subjectif et mort presque. Parce qu'en fait, l'esprit ne révèle dans sa puissance, quelles sont les réelles lois pour aujourd'hui? Moi, oui, c'est ça que ça me rappelle à chaque Pentecôte, c'est cette révélation par le Saint-Esprit, mais encore faut-il être assoiffé. Parce que la Pentecôte, ce n'était pas un petit truc.
Ils l'ont attendu.
Ils l'ont attendu, et ouais. Puis il y a eu un avant et un après.
Tout à fait.
Il n'y a pas... Tout à fait. Complètement...
Je crois que le terme pour concernant la Pentecôte, c'était le terme évident. Pour nous chrétiens, il fallait que ça finisse comme cela. Parce qu'auparavant, c'était que désobéissance, de désobéissance en désobéissance, de loi en loi. Et ce cumul aurait pu finir par une loi extraordinaire qui aurait tout aboli, ou par la Pentecôte. C'est dans ce sens que nous vivons aujourd'hui, nous.
Oui.
Par la grâce de la Pentecôte, par l'Esprit de Dieu qui oui. est en nous aujourd'hui. Et quant à l'histoire, bien sûr, c'est très bien de l'avoir développée dans le détail comme tu l'as fait, parce que bien des fois, c'est vrai qu'on parcourt les lectures, mais on ne rentre pas réellement dans le fond de l'histoire.
Oui.
Mais là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Maintenant, on est dans au temps de la grâce. Hein. C'est la Pentecôte.
Oui.
Et c'est à partir de là qu'on doit devenir les chrétiens que nous devons être, selon la volonté des commandements de Dieu.
Et au regard de l'histoire et de la loi de Dieu qui a été donnée, et de tout ça, moi, une des choses qui me fait penser, c'est que cette loi qui est donnée au peuple, on est amené à la chérir, à l'aimer, à la comprendre, puisqu'elle est finalement à la Pentecôte intégrée dans nos cœurs. Pas dans notre tête, mais il dit dans le cœur. Et ce rapport à la loi, moi, j'en m'en parlais avec cette douceur et cet amour, parce que c'est comme si Dieu, je la donne dans vos cœurs, vous pouvez la chérir, l'aimer, comprendre en quoi ça me révèle, en quoi ça vous aide, en quoi ça fait de vous des êtres accomplis et heureux. Et c'est un rapport positif à la loi. C'est pour ça que je l'ai intégré dans l'histoire biblique avec ces lois qui sont rajoutées pour essayer d'aider le peuple qui n'y arrive pas à s'en sortir, mais qui essaye. Et dont les prophètes vont dire, on va donner une solution qui va concerner le cœur et qui va passer par le Saint-Esprit.
Et je crois que pour nous, aujourd'hui, c'est rassurant d'avoir abouti à ce terme-là. D'après le début de la Genèse, avec toutes les périodes d'incompréhension, de désobéissance, où il a fallu faire des lois sur lois, à ne pas s'en sortir si on n'était pas arrivé à la Pentecôte.
Oui.
Mais par la grâce de Dieu, on est à Pentecôte, on a reçu la puissance du Saint-Esprit. Mmh. Et pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire de savoir pour arriver à ce terme de grâce, les combats qu'il a fallu qu'ils se fassent, quoi, les lois, oui. les oui, différentes oui. lois. Aujourd'hui, ça doit nous servir de référence pour notre réflexion personnelle au niveau de notre avancement, pour notre progression, disons, dans la foi.
Oui.
En celui qui a tout bâti, quoi. Tout bâti, parce que c'est Dieu qui a bâti depuis le Messie, quoi.
Oui, oui.
Il a fallu qu'il nous soit envoyé quelqu'un pour vraiment nous rassurer et nous donner cette puissance-là.
Oui, oui, tout à fait.
Et nous conduire au quotidien, nous conduire. C'est par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, etc., etc.
Oui, c'est pour ça que Jésus, il vient, il pardonne, il guérit, il délivre des gens. Et d'un coup, il dit, mais en fait, je suis venu accomplir la loi. On dit, mais qu'est-ce que ça fait cette histoire-là? Ben, c'est toute l'intrigue biblique. Oui, c'était tout l'enjeu. Je meurs, je prends vos péchés sur moi, je règle ce problème de pardon, qui était aussi lié à des lois de Dieu, puis je vous donne la vie éternelle, la puissance pour pouvoir l'intégrer. Faut un micro.
Est-ce qu'on peut dire clairement la loi était faite pour connaître Dieu?
Oui, la loi révèle Dieu.
Bon, et donc, plus tard, on voit dans le Nouveau Testament que pour connaître Dieu, ça passe que par le Fils, le guide, Jésus. Donc, du coup, dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas la même loi.
Alors, le Nouveau Testament dit qu'on accède au Père par le Fils, mais la loi de Dieu révèle le Père. Elle révèle bien des facettes du Père, dans sa fidélité, dans sa loyauté, dans toutes les valeurs qu'on retrouve dans le christianisme. Toutes les valeurs sont dans cette loi, et on peut les lire, on peut les comprendre. Après, il y a cette puissance qui nous fait, que ça vit en nous, mais elles sont là, elles sont intelligibles, elles sont intelligentes, elles sont pertinentes. Ouais. Et là, on connaissait déjà Dieu, un Dieu fidèle. Lui, il ne va pas voir ailleurs. Dans le mariage avec son peuple, il est fidèle, il reste droit, il pardonne. Parce que c'est vrai qu'il ne cesse de pardonner son peuple, c'est ça aussi cette histoire, il ne cesse de le pardonner, d'être pédagogique, de l'aimer, d'être tendre avec lui. Et tout ça, c'est lui. C'est juste que, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple au début de cette étude, il y en a certains qui vont dire « oui, mais la lettre tue, l'esprit vivifie, si la lettre est sans l'esprit. » Mais est-ce qu'on peut connaître l'esprit sans la lettre de Dieu, dans ce qu'il a dit et révélé? Donc, dans l'Ancien Testament, dans cette histoire d'Israël, ils avaient une certaine connaissance de Dieu, qui n'était pas pleine, mais ils avaient quand même une connaissance de Dieu. Ils savaient que c'était un Dieu fidèle, ils savaient qu'ils pouvaient compter sur lui. Et d'ailleurs, ils ne se gênaient pas pour régulièrement l'appeler et lui dire « ça va pas, et il faut que tu viennes. » Voilà.
Mais il n'empêche que il n'y avait pas Jésus pour... je veux dire, nous, on a ça, quoi.
Mais c'est pour ça que j'ai voulu intégrer le Messie dans cette mission d'intégrer la loi dans les cœurs. Pour comprendre que cette loi-là, il la prend et il l'intègre dans nos cœurs. Pour pas dire qu'ils n'avaient rien avant. Ils avaient toute la loi, en fait, avant. Et Jésus, il fait ce lien pour la mettre dans nos cœurs. Donc, avant, ils avaient une connaissance, quand même, de Dieu. Et aujourd'hui, elle est révélée par l'Esprit. Donc, oui, c'est pas la même chose, mais il y a un accomplissement. Voilà.
Est-ce que, justement, c'est pas Dieu qui a prévu tout ce parcours dans l'humanité? C'est-à-dire que quand Dieu a libéré son peuple d'Égypte, donc c'était quand même suffisant pour le peuple d'Israël de comprendre que Dieu était amour et que quand il a donné ses premières lois, c'était des lois quand même d'amour. C'est quand même une belle preuve d'amour qu'ils ont eue. Et justement, en se révélant, chaque fois qu'il y a eu des révoltes, des désobéissances et que chaque fois Dieu s'est révélé par d'autres lois, est-ce que ce n'est pas Dieu qui a prévu tout ce parcours, du coup? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou pas? Parce qu'au tout début, c'était déjà une preuve d'amour, déjà. Quand Dieu les a libérés d'Égypte, ils pouvaient baser leur confiance sur Dieu par rapport à ses lois, avant de se rebeller, de
désobéir. Il donne même sa loi avant la chute.
Oui.
Oui, oui.
Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a prévu tout ce parcours, justement, après?
Alors, je dirais une chose. Dieu met un plan de sauvetage en place pour que son peuple puisse s'en sortir. Les prophètes révéleront progressivement l'idée du cœur, de la loi, du Messie. Mais Dieu n'est pas l'auteur des rébellions pour révéler sa loi. Il se sert de l'histoire qu'il connaît à l'avance, évidemment. Mais ce n'est pas lui qui va inspirer le mal pour pouvoir révéler sa loi. Il ne subit pas l'histoire pour autant parce qu'il est souverain. Mais puisqu'il est face à un peuple qui se rebelle, il va continuer à faire évoluer les choses dans un plan qui révèle dès la chute d'ailleurs. Quand Adam et Ève chutent, Dieu leur dira « quelqu'un viendra vous sortir de là » dès le départ. Donc dès le départ, il met ce plan en place de révélation progressive. Parce qu'il savait à l'avance, évidemment. Mais ce n'est pas parce qu'il sait à l'avance qu'il y a un déterminisme et que du coup, il a voulu que le peuple pêche, parce que sinon, ça ferait de Dieu un pêcheur. Mais il est souverain et il accompagnait l'histoire par sa souveraineté et par sa grâce et avec ses lois pour l'amener à son accomplissement. Voilà. Si tu veux, ça n'enlève pas au peuple et aux pécheurs sa responsabilité. C'est pas parce que Dieu est souverain que ça enlève au peuple sa responsabilité de ce qui s'est passé. Ça veut pas dire que Dieu subit l'histoire, mais qu'il s'en est servi pour l'amener quelque part. Voilà.
Pour ma part, je pense que l'origine de tout ce que nous venons, tu viens de décrire et de développer, l'origine est le péché et la désobéissance. Dieu savait qu'il y aurait un combat. Et le combat, on l'a décrit là, par étapes, la désobéissance, les lois sur loi, loi sur soi, c'est la désobéissance, c'est le péché. Et qui nous a mené en fin de compte, c'est pour ça, pour nous, ça peut être pour nous une référence concernant la désobéissance, où elle peut nous mener. Elle nous a mené dans tout ce parcours. Et par la grâce de Dieu, parce que c'était le plan de Dieu qui s'est établi là. Il a fallu le payer, le péché. Il a fallu le payer. Ça s'est payé comme ça, pour en arriver comme ça au baptême dans Saint-Esprit. C'était la délivrance. C'était prévu. Mais pendant ce temps, ça a pu permettre des combats, des délivrances, tout un parcours extraordinaire. Hein. Ça a duré des siècles et des siècles. Mais pour nous aujourd'hui, l'assurance, c'est que nous sommes vraiment dans la grâce. Dans la loi de Dieu, la loi reste toujours, mais c'est celle du Saint-Esprit. Mm. Il ne peut pas avoir de vie sans loi. Mm. Il y avait la loi des hommes auparavant, dans l'Ancien Testament, la loi des dignitaires, c'était l'ordre, c'était la loi. Aujourd'hui, nous sommes dans la loi de la grâce, la loi d'amour, la loi de bénédiction. La différence est là.
Alors, je suis d'accord, mais j'ajouterais ce que dit Joël, c'est-à-dire que j'intègre la loi et l'amour dans aussi l'histoire d'Israël, dans le sens où Dieu aurait pu mettre fin à cette histoire. Et donc, je complète ce que tu dis, hein, je ne le contredis pas. Mais pour dire que j'ai du mal à dire que le Nouveau Testament, c'est le temps de la grâce, et l'Ancien, c'est le temps de la loi. Parce que le peuple a été maintenu dans cette alliance de fidélité. Et donc, ça a toujours été le temps de la grâce. Quelque part, c'est toujours le temps de la loi. C'est juste que c'est manifesté différemment par l'Esprit. Mais je ne les mettrai pas forcément en disant tant de loi et tant de grâce. Je pense que ça a toujours été le cas. Comme dit Jésus, jusqu'à ce que le ciel et la terre ne passent. Voilà. Il y aura toujours cette loi qui est inscrite en nous et qui est agissante par l'Esprit. Mais le peuple a toujours et continue aujourd'hui, le peuple d'Israël, d'être au bénéfice de cette grâce.
Bien sûr que le peuple est dans la grâce parce que Dieu aurait pu arrêter rapidement. Et ce parcours-là, je ne sais pas, il y aurait un délit complémentaire, je ne sais pas ce qu'il y aurait eu. Mais il a fait grandir le peuple. Il a fait comprendre au peuple que dans la désobéissance, dans le péché, le combat serait rude. Et il a été rude, parce qu'on ne rentre pas dans le détail ce qui a pu se passer. Mais c'est vrai, quand je dis grâce, bon, non, mais la grâce était toujours présente, puisque Dieu était là. Et c'est un Dieu de grâce. Donc lui était
oui,
là,
c'est ça.
Un Dieu
de grâce. Oui, c'est pour ça que je réagis quand tu dis tant de grâce, je dis toujours tant de grâce, c'est toujours tant de loi, mais une expression différente de celle-ci. Voilà, oui, c'est ça, oui.
On m'entend ? Oui. Pour faire plus près, d'accord. Merci déjà pour la continuité entre ces deux. Ça fait du bien. Et surtout, je voudrais comprendre du coup comment définir le légalisme ?
Eh bien, justement, moi je le définirais comme ceci. Le légalisme, c'est d'exiger de quelqu'un qu'il fasse quelque chose sans lui donner les moyens de le faire. Alors que le faire par l'esprit, c'est lui donner le cœur pour arriver à le faire. Donc, quelqu'un qui veut s'écarter d'un péché, soit je lui dis, tu arrêtes, soit je lui dis, ensemble, on va travailler pour que tu arrêtes, pour que tu l'intègres et que tu le comprennes. Pour moi, c'est la différence, c'est l'idée du moteur. Qu'est-ce qui fait que tu vas dans une direction ? Est-ce que c'est une compréhension, une pédagogie de Dieu intelligente et de cœur ? Ou est-ce que c'est juste un devoir du coup qui n'a plus de moteur et qui perd son sens en fait. Je ne sais pas si c'est clair.
Si, je comprends. Voilà, pour moi, c'est clair. Du coup, en recevant la révélation de l'amour de Dieu, la loi, ça ne devient plus une obligation, ça devient un devoir.
Elle devient une logique.
Logique, oui, voilà. Parce que quand je dis devoir, c'est parce que, c'est peut-être un mauvais terme, mais oui, on le fait parce que on sait que c'est notre Père.
Ouais.
Et il nous donne des choses bonnes à faire.
Ouais, ouais.
Un cadre qui est bon.
Tout à fait.
Et donc, du coup, on ne le fait pas par forcing, mais on le fait juste parce qu'on l'aime.
Par forcing, de toute façon, l'histoire d'Israël montre que ça ne marche pas. Donc, c'est avec le cœur. Et dans cette compréhension du cœur, là, on voit que ça marche. Mais on voit aussi que l'Église a beaucoup de mal dans le Nouveau Testament à faire fonctionner aussi cette loi du cœur. Parce que ça questionne vraiment notre intention. Pourquoi on pêche, finalement ? Pourquoi on désobéit à la loi ?
On a le libre arbitre, donc après, c'est aussi une question d'intention, non ?
Et mais pourquoi on choisit de faire quelque chose dont on sait que ce sera mauvais ? Surtout en sachant qu'aujourd'hui, on a la capacité de ne pas le faire. C'est les grandes questions des apôtres hein, dans les églises. Vous avez l'esprit, vous pouvez ne pas pécher. Vous péchez parce que vous choisissez de le faire. Micro.
Parce qu'il y a eu le péché au départ avec Adam et Ève, et donc la suite fait que le mal est là et on est obligé de faire avec.
Ben justement non. Avec l'Esprit de Dieu, nous avons une puissance, il est appelé une puissance, pour choisir de faire le bien. Il n'y a plus de fatalité, parce qu'il y a la solution des prophètes. Ézéchiel, il dit, il y a un cœur nouveau. Jérémie, il dit, ce cœur, il y aura la loi qui est inscrite dessus. Et Isaïe, il dit, il y a un Messie qui nous guidera vers ça. Donc maintenant, il n'y a plus d'excuses. Sauf de dire, volontairement, je choisis de ne pas t'obéir. C'est volontaire. Et c'est ça un peu le paradoxe des chrétiens du Nouveau Testament que Paul voit. Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils sont allés faire ? Ils font de l'inceste et de la prostitution. Il dit, mais c'est impensable. Des gens qui ont reçu la loi en eux, qui continuent de choisir de faire autrement. Voilà. Mais Paul ne dit pas, du moment où c'est du péché et qu'on a l'esprit en nous, on peut choisir de ne pas le faire, en étant motivé par Dieu. Micro. Je suis désolé. Vas-y.
J'avais une question par rapport à une explication par rapport à un verset qui se trouve dans Romains. J'aimerais savoir... Il y a un verset qui dit quand les païens font naturellement ce qui est prescrit dans la loi, ils disent qu'ils sont une loi pour eux-mêmes. J'aimerais savoir en quoi consiste ce verset, au fait. Quand les païens font naturellement ce qui est prescrit dans la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes.
Est-ce que tu as la référence ? Attends, deux secondes. Je regarde, juste une seconde. Non, mais attends. Donc tu dis les païens...
Quand les païens font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes.
J'essaie juste... Ah oui, d'accord, Romains 2, juste pour savoir de quoi on parle. Ok, j'ai le verset. Ok. Hop. Excusez-moi, juste je relis ce passage parce que si j'ai pas le contexte, j'ai du mal. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant à tour à tour. Des hommes. Voilà, ce sont en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ouais. Je pense que là, Paul il parle de la conscience de cette loi qui reste dans l'humanité. Je l'interpréterai comme ça. Qui fait que il y a cette graine de cette loi qui fait que tous les gens ont conscience, pas de tout ce qui est bien et mal, mais les gens ont un petit peu cette idée de se dire, ils savent quand ils franchissent une limite. Moi, je vais prendre un exemple. Au régiment, il y a une dame qui me dit « Oh, je suis pas marié, je suis en couple, je vis avec mon conjoint, que c'est bon de vivre dans le péché. » Et alors, ils sont pas... Elle n'est pas chrétienne, mais et à la limite que le bien et le mal c'est relatif, mais elle l'a défini comme ça. Et je pense que les païens, des fois, ont cette conscience-là, Et des fois, ça peut être aussi cohérent par rapport à cette conscience-là, parce que ce sont des valeurs judéo-chrétiennes qu'on avait encore et qu'on a encore un peu dans la société, voilà, qui restent sans forcément une foi personnelle en Dieu, mais l'idée de cette conscience-là. Romains 2, 13, 14, 15.
Et on revient à dire, pour nous qui évangélisons, souvent on se dit, mais comment que le cœur des gens est dur? Le cœur des gens est dur, c'est ça. C'est parce qu'ils vivent dans le monde. Et comme dit cette dame, que c'est bon de vivre dans le péché. Et très compliqué de venir à Jésus. Parce qu'il y a les lois de Dieu. C'est l'Ancien, le Nouveau Testament. Il dit, tu feras ça et pas ça, tu feras ça et pas ça. C'est pour notre bien et pour l'amour de Dieu. Manifester en nous.
Alors la question que je vous pose, ok, on va partir de ce cas pratique. Comment on fait du coup, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui dit qu'il est bon de vivre dans le péché?
Ben oui.
Comment on fait?
Ben tu dis, comment on demande fait pardon à Dieu.
Jusqu'à un certain point, faut lui. Enfin moi, j'aborde la situation comme ça. Je dis, il y a un moment, oui, c'est agréable.
Ouais.
Mais la récolte, et plus on vieillit, plus on voit. Conséquences de...
Donc toi tu dirais les fruits.
Au début c'est attirant, c'est comme Ève.
D'accord.
Elle n'est pas allée que parce que c'était un fruit piquant qui sentait mauvais.
Oui.
À un petit moment où c'est agréable. Et puis après,
Oui, tu parlerais de la récolte, voilà. Du péché, ce que ça produit. Dans le micro. Non mais c'est pour l'enregistrement. C'est parce qu'après on dit ton nom, ton prénom et on le met sur internet.
Moi, je dirais juste, est-ce que tu ne penses pas que tu as été créé pour plus?
Ouais.
C'est tout.
À quoi tu aspires? Ouais, une piste que j'ai prise avec cette femme qui m'a dit ça, et donc là, on parle vraiment des valeurs et de comment on intègre ça. Je l'ai ramenée à son état de petite fille et je lui ai dit, mais quand tu étais petite, tu n'as pas rêvé d'un mariage? Elle a dit, si, le prince charmant qui vient sur son cheval blanc, blablabla. Et donc j'ai ramené à ça, et d'un coup elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, j'ai toujours rêvé que de me marier, en fait, mon mari ne veut pas. Et j'ai dit, tes rêves sont morts, et c'est pour ça que tu appelles ça péché. Et donc c'était une façon de lui dire, tu n'as pas des rêves et des aspirations. Et c'est une façon de mettre des valeurs comme ça. Je vais prendre un autre exemple, mais que j'avais déjà pris. J'étais dans un régiment où il n'y avait quasiment que des femmes dans ces bureaux. Et dans tout le bureau de ces femmes, il y avait des posters de rugbyman, si vous voyez comment ils sont. Et à chaque fois qu'un gars passait dans le couloir, on avait droit à tous les commentaires. « Padre, écoutez pas !» Tous les commentaires qui passaient, moi j'entendais ça, bon, je dis « Ok ». Et puis je me dis « Mais comment on va faire ? » Parce que comment elles vont intégrer ça en elles ? Comment elles peuvent comprendre que c'est pas bon pour elles ? Et donc je suis allé les voir, je leur ai dit « Bon, vous cherchez le prince charmant, vous parlez toujours de Brad Pitt et de DiCaprio, puisqu'il y a les posters aussi, c'est cette caricature, hein. » Et je leur ai dit, je vais vous dire quelque chose. Vous cherchez le prince charmant, mais vous n'êtes pas des princesses. Oh non, comment vous pouvez dire ça, padre? Vous êtes trop dur, blablabla. Et je leur ai dit, mais un homme qui rentre dans votre bureau, qui voit ça, qu'est-ce qu'il va penser? Le lendemain, tous les posters étaient à la poubelle. Et pourquoi? Parce qu'elle voulait rencontrer le prince charmant. Mais je trouve que c'est intéressant, parce que derrière l'idée du prince charmant, il y a la loyauté, la fidélité, les valeurs, l'amour. Moi, je fais pareil avec un officier qui vient me voir, qui me dit « je trompe ma femme ». Dans l'autre sens. Je lui dis « tu salues le drapeau le matin, au garde à vous, il est où l'honneur ? » Et quand tu te regardes dans la glace le matin, t'es fier de toi ? Ah ben non. Et surtout, la question que je pose, c'est « est-ce que tu es heureux ?» Non. Donc, ça ne marche pas. Ton subterfuge ne marche, ça ne te rend pas plus heureux. Tu ne t'épanouis pas. Donc, les fruits de ce que tu fais ne sont pas bons. Tu le sais, tu continues. Voilà. Une façon de pour eux, de souscrire aux valeurs de fidélité qu'on trouve dans la Bible, par exemple. Voilà. Ensuite, on peut embrayer sur la foi chrétienne. Mais c'est une des façons que j'ai pour qu'ils puissent se dire « Ok, en fait, j'ai compris que c'est mauvais. Voilà. » Mais souvent, je les ramène à leurs rêves ou à ce qu'ils voulaient quand ils étaient petits. Ça marche bien. Avec les militaires, ça marche bien parce que ce sont des enfants. Donc voilà. Ce sont de grands enfants. Mais c'est une façon pour eux de pouvoir comprendre et souscrire à une valeur autre en disant « Ah oui, en fait, quand Dieu dit qu'il faut être fidèle, il y a un rêve derrière qui est magnifique. » Il pardonne, il continue. C'est pour ça que quand Jésus dit, mais Moïse, à la base, il ne voulait pas que vous le divorciez, mais comme vous avez le cœur dur, bon, Il l'a permis, mais à la base, le pardon et la fidélité, c'est tellement plus beau. Moi, comme je leur dis souvent, excusez-moi l'expression des fois dans l'armée, je dis ça a de la gueule, ça. Ça a de la gueule. L'évangile, ça a de la gueule, parce que c'est de la fidélité. Dieu est là, il ne te lâche pas. Jusqu'au bout, il t'amène. Il est fidèle, il est loyal, il ne va pas te laisser tomber. Il ne va pas te faire un sale coup. Jamais. Et donc, ça leur parle en termes de valeur. C'est parce que c'est mon référent militaire, mais dans d'autres milieux, ça peut être ça aussi. Donc, les princesses et les princes, moi, je les vois tout de suite dans les régiments. Voilà. Donc, ceux qui se la jouent gros bras, je dis, attends. On va parler de ce que c'est un prince.
Deux mots pour ma part, pour finir. C'est un encouragement. Moi, j'évangélise beaucoup. Naturellement, autour de mes voisins, chez moi, dans le jardin, les gens passent, on discute. Bon, c'est comme c'est ma vie. Mais c'est vrai que souvent, on n'est pas déçu. On n'est pas déçu parce qu'on sait quelle va être la réaction des gens. Ça va être de la dureté, des réponses souvent déplaisantes. Mais ils auront entendu qu'on leur a parlé de Dieu. Et dans ce sens, dans la parole de Dieu, il est écrit à un moment donné, que bien sûr, il faut évangéliser, mais ne soyons pas entonnés, soyons tout d'abord des semeurs de la parole de Dieu. Des semeurs de la parole de Dieu. Parce qu'on peut semer et d'autres récolteront. Comme nous, on peut récolter de ce que des frères et des sœurs ont semé. Mais il faut lancer la parole de Dieu. Soyez bénis. Il part. Soyez bénis. Dieu vous aime. Alléluia. C'est ça.
Ouais.
Notre motif, ça doit être celui-là. Pas de découragement, non. On n'a pas à être découragé. Mais soyons des semeurs. Soyons des semeurs de la parole.
Et Joseph, je rajouterais par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont refuser et qui ne vont pas vouloir rentrer dans ça. Mais c'est pour ça que je trouve que ce qui est intéressant dans cette compréhension-là, même de l'évangélisation, c'est de dire, quand on dit à quelqu'un que c'est important de se repentir, c'est que la personne qui va faire ça en sera le premier bénéficiaire. Dieu ne sera pas plus grand, il ne sera pas plus éternel. Mais c'est dans le bénéfice de la personne elle-même. C'est un mal pour un bien. Tu vas mourir à toi pour être libre. Et ça, on peut l'expliquer. Ce n'est pas négatif en disant « tu es mauvais pour dire tu es mauvais ». Dieu te dit il y a un problème pour te sortir de là. Et je pense qu'il y a une idée de positif dans ça. Ce n'est pas mortifère, ce n'est pas austère, mais c'est de dire, et je complète ta réponse, hein, je ne dis pas que c'est ce que tu dis, je complète en disant, quand quelqu'un me dit qu'il refuse, j'ai dit, mais franchement, c'est pour toi, c'est pour ton bien. Mourir à soi, c'est une grâce, parce que nos problèmes viennent de notre ego, on a plein y a l'identité, il y a plein de choses qui nous travaillent. Ça va te faire du bien, l'évangile. Ça va te faire du bien de te repentir. Ça va te faire du bien, tu vas lâcher le truc. Voilà. Ce n'est pas plaisant pour la fierté. Mais il y a cette idée de cette grâce qui se manifeste et qui fait qu'on l'appelle une bonne nouvelle. Ok, t'as fait des fautes, Dieu t'apporte une solution qui passe par cette reconnaissance de tes fautes. Mais de l'inscrire en disant, c'est pour votre bien. C'est un papa qui vient vous sauver, c'est pour votre bien. Et moi je leur dis souvent d'ailleurs, quand ils disent, mais la repentance, c'est trop, et puis pourquoi on devrait faire ça? Je leur dis franchement, pour la vie éternelle, la repentance, c'est vraiment pas cher payé. C'est que dalle. Ça nous coûte, nous, notre ego, mais pour la vie éternelle, c'est pas cher payé. J'en dis même, du coup, c'est gratuit en Jésus, mais c'est une façon de dire, franchement, vous repentez de vos péchés, vous avez la vie éternelle. Dans la balance, c'est plutôt pas mal.
J'ajoute encore quelque chose. Et dans la parole également, il est dit, dans la parole, on revient à la parole. On revient au commandement de Dieu. Il nous dit à un moment donné que le monde voit que vous m'appartenez. Que ça puisse se lire en vous, dans votre comportement, dans vos paroles, dans tout ce que vous allez partager, que le monde voit. Et là, il y a 75% du travail qui est fait, que le monde voit. Vous n'êtes plus les mêmes que vous étiez, que le monde voit par cette différence-là. Donc ouais. Là, oui, il faut arriver là.
Et j'en amène à ma conclusion du coup, que le monde voit par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Donc, la loi de Dieu qui est inscrite dans les cœurs, tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Le premier signe du royaume qui est donné dans les évangiles, c'est que les disciples s'aiment les uns les autres. Les gens le voient, ils sont touchés. C'est la première vitrine du royaume. Effectivement, ça c'est important. Alors, j'aimerais juste reprendre rapidement, j'en ai pour deux diapos. On a vu que la Torah et le discours final de Moïse, c'est que le peuple est incapable d'obéir à la loi de Dieu. Ça ne veut pas dire que la loi n'est pas bonne, ça veut dire qu'il y a ce constat qui est donné. Il y a les prophètes qui disent que le cœur doit changer et accueillir en lui-même cette loi, et qu'il va bien falloir que ça change. Et puis les prophètes rajoutent qu'il y a un Messie qui viendra nous guider dans l'accomplissement de cette promesse. Et puis le Messie vient, il règle le problème du pardon à la Pâque, il meurt, il ressuscite pour nous. Et à la Pentecôte, il nous donne l'esprit pour communier avec Dieu, avec toute cette intrigue qui est centrée sur le fait d'accueillir la loi en nous. Pourquoi ? Pour avoir Dieu en nous. Et la beauté de cette histoire, la beauté de toute cette histoire-là, c'est que la loi inscrite dans nos cœurs a pour but de révéler au monde qui est Dieu. Cela a toujours été le cas, et ça le sera toujours jusqu'à la fin des temps. Et la gloire de l'intrigue biblique, c'est que le guide de son peuple, ce sera Dieu lui-même, le Messie d'Israël, le Sauveur du monde, pour que Dieu vive en nous par sa loi, par le moyen de son esprit. Voilà le parcours que je voulais faire cet après-midi avec vous, et qu'on puisse comprendre qu'on va fêter la Pentecôte dans quelques semaines, mais commencer à méditer sur l'histoire biblique. Qu'est-ce qu'on accueille à la Pentecôte ? Qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte ? Qu'est-ce qu'on accueille ? L'Esprit de Dieu vient en nous ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une puissance, oui, mais pourquoi ? Pour pouvoir aimer, c'est vraiment ça, pour pouvoir aimer Dieu, pour pouvoir aimer le monde, pour pouvoir être des témoins. Et ça accomplit toute cette histoire de la loi qui n'est pas abolie, mais qui s'accomplit en nous. Et c'est pour ça que moi j'aime bien, dans cette phase du calendrier biblique, de réfléchir à la loi elle-même, à ce qu'elle dit sur Dieu, ce qu'elle dit sur nous, de notre péché, de la grâce de Dieu, et de cet amour qui ressort finalement. L'Esprit est donné pour accomplir cette histoire et cette intrigue biblique du don de la révélation de Dieu en nous. Et je crois qu'il y a, ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est qu'à la fois le guide, c'est Dieu lui-même, et puis finalement, il ne vient pas juste sur terre, il vient en nous. Je trouve que c'est magnifique. Et c'est ce qu'Ésaïe avait pressenti aussi déjà, un peu timidement. Le Messie viendra nous guider dans l'idée de ce cœur, puis à la Pentecôte, il vient carrément en nous. Qui l'eût cru ? Et j'en ai terminé. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques sur cette réflexion ? Vous voyez, comme c'est un thème qui est gros, je ne peux que le survoler là en une heure, hein, comme ça. Je ne peux pas rentrer dans les détails de différentes lois, de tout ça. Mais c'est pour donner la façon dont la loi est révélée au travers de récits, pour une main tendue constamment vers un peuple. Et surtout, une idée positive de la loi de Dieu, qui est belle, qu'on va garder au chaud, que les prophètes ont gardé au chaud pour pouvoir l'amener par l'esprit dans nos cœurs. Voilà, je m'arrête là.